Merci beaucoup, Pasteur Jean-Frédéric, et bien bonjour à chacun d'entre vous. Merci le Fils. Alors, ce matin, on souligne la fête des pères, hein? Et bien sûr, on veut souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas qui sont présents ici aujourd'hui. Mais, quelques réflexions donc sur le rôle d'un père. En fait, qu'est-ce que c'est un père au juste? Qu'est-ce que c'est un père aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devrait faire? Ou qu'est-ce que ça ne devrait pas faire? Je disais une histoire humoristique que je vais vous partager qui parle que ce n'est pas facile le rôle d'être parent. L'histoire va comme suit. Je marchais vers ma voiture à la sortie du centre commercial il y a quelques semaines lorsque j'ai entendu un cri fort et strident. « Ah !» hurlait une voix masculine. J'ai identifié un homme à environ une quinzaine de mètres, 50 pieds si on veut, de moi, qui était dans une grande détresse et pour une raison, bien une bonne raison. Ses doigts étaient restés coincés dans une portière d'auto qui, de toute évidence, s'était refermée de façon inattendue. Vous avez déjà vécu ça? Non, il n'y a pas juste deux personnes dans toute cette salle. Oui, vous pouvez, hein? Oui, c'est ça. Ça fait mal, hein? Ses doigts étaient restés coincés, donc, d'une façon, la porte s'était refermée. Alors, l'histoire se poursuit ainsi. Accroupi sur le siège avant de la voiture, se trouvait un espiègle petit garçon de 3 ans, qui avait apparemment décidé de fermer la porte à papa. Ce n'est pas une histoire personnelle que je vous raconte, là. Bien que c'eût été possible. Le père pointait frénétiquement ses doigts avec sa main libre en disant « Ouh, ouvre la portière, mon petit homme! Ils sont pris vite, mon petit homme! S'il te plaît, ouvre, ouvre! » Et finalement, le petit homme a fini par comprendre le message et a débarré la portière en libérant ainsi les doigts bleus de papa. Alors le père s'est mis à sauter dans les allées du stationnement en caressant et en baisant sa pauvre main. Et pendant ce temps-là, le petit homme, lui, était paisiblement assis, sans bouger, sur le siège avant de la voiture et attendait que papa se calme un peu. C'est sûr que cet incident-là était douloureux pour l'homme qui l'a vécu, mais je dois admettre que j'ai trouvé l'histoire quand même assez cocasse. Je suppose que cette situation difficile symbolise aussi le coût élevé souvent d'être parent. Les parents donnent ce qu'ils ont de mieux à leurs enfants, qui souvent réagissent en refermant la porte sur leurs doigts, particulièrement lors des années difficiles de l'adolescence, où l'enfant doit se distancer, et parfois, il va de façon exagérée. C'est peut-être pour ça que quelqu'un disait un jour avec sarcasme que la démence est une maladie héréditaire, elle nous est transmise par nos enfants. Pas facile d'être parent. Alors, on revient à la question, qu'est-ce que c'est donc être un père? On se pose donc des questions qu'on n'a jamais imaginées qu'on pouvait se poser. Hein? Dans un monde sans cesse changeant, ce n'est pas évident. Ça a tellement changé à travers les années, le rôle de père. Et le rôle de père évolue donc à travers les époques. En 1850, être père, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, si c'est sûr. Mais le rôle de père évolue à travers les cultures aussi. En toutes sortes de continents sur la face de la Terre, on n'a pas la même approche sur la vie familiale et le rôle de père et ce qu'on attend du père. Et même d'une génération à l'autre, les choses changent. Dans les années 50 et 60, il y avait une série télévisée qui était intitulée « Papa a raison ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Ah, les années 50 et 60, ça fait quand même quelques années, vous pouvez noter que ce n'est pas la plus récente série sortie sur Netflix ou sur Crave dernièrement. Ça, c'était la période où est-ce que le père était perçu comme l'autorité ultime dans la famille. Le chef de famille qui avait le dernier mot sur toutes les décisions. Certains pourraient dire que c'était l'âge d'or du père. L'époque du père roi, peut-être. Il était souvent considéré comme celui qui savait le mieux et dont les décisions ne devaient pas être contestées. Dans cette série-là, papa a raison, ça reflète le concept du père autoritaire et omniscient, qui connaît toutes choses, qui a la réponse à toutes les questions. Elle mettait en scène une famille idéale, où le père est la figure d'autorité et le guide de sa famille. Pas question de remettre en question l'autorité du père, ni sa sagesse, ni son image de héros, parce que papa a raison. Est-ce qu'il y a un danger là-dedans? Est-ce qu'il y a un piège là-dedans? Ben, comme toute situation, un père trop autoritaire pourrait entraîner divers problèmes chez son enfant, notamment une faible estime de soi, un manque d'autonomie, une peur ou une difficulté à exprimer ses émotions, la difficulté à faire des choix. Un père trop autoritaire ne permet pas à l'enfant d'apprendre à prendre des décisions, justement, et à développer son sens des responsabilités. Il pourrait courir le risque de devenir passif ou hésitant dans la vie. Alors, où est l'équilibre? Qu'est-ce que c'est un père au juste aujourd'hui? Il y a eu cette période-là, donc, du père-roi. Puis après ça, il y a eu la période de l'enfant-roi. Cette expression ferait référence à une période où les enfants étaient excessivement gâtés et élevés sans limite. Cela s'est produit en réaction, sans aucun doute, à des pratiques éducatives perçues comme rigides ou répressives, où il y avait de la correction, peut-être de l'abus, peut-être même de la violence. Et sans aucun doute, ça a dû arriver aussi. Et ce concept-là de l'enfant, tout est centré autour de l'enfant, a gagné en popularité dans les années 70 à 90 environ. On accordait plus d'attention au développement de l'enfant et beaucoup moins aux corrections qui devaient être données, bannies. C'est un difficile équilibre que l'éducation. Mais l'absence de limites et la survalorisation des enfants pourrait nuire à leur développement émotionnel et social en les empêchant de s'ajuster aux contraintes et aux conflits inévitables qui arrivent dans la vie. Tôt ou tard, tout ne sera pas parfait dans la vie. Tôt ou tard, on n'aura pas tout si facilement dans la vie. Il faut donc s'ajuster et apprendre comment gérer tout cela. Une éducation trop permissive pourrait entraîner des difficultés chez les enfants qui auront du mal à gérer leurs émotions, à respecter les autres, et à faire des compromis. Alors, c'est où l'équilibre? Ah, c'est pas évident. La vérité, c'est qu'il faut toujours éviter les extrêmes. À l'extrême de l'un ou à l'extrême de l'autre, c'est pas bon. L'équilibre, c'est dans le milieu. L'objectif que nous avons tous à l'égard de nos enfants, c'est qu'ils trouvent leur place dans leur vie, leur rôle dans le royaume de Dieu. Le rêve de tous les parents et des pères, bien sûr, c'est que leurs enfants deviennent autonomes, réfléchis, capables de développer et de maintenir des bonnes relations avec leur entourage. Et parfois, il arrive qu'on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on se dit « Est-ce que je vais un jour réussir à voir cela dans ma propre vie? » La Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et au verset 1, « Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père. Mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. » Pourquoi? Ben, c'est parce que si le fils est insensé, c'est la faute à sa mère, parce que ça ne l'est plus. Ah, non, c'est pas vrai, ça. Cette dernière partie-là n'était pas inspirée, là. Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père. Les enfants ne pensent pas toujours la même chose de leur père. Et même les mêmes enfants ne pensent pas toujours tout au long de leur vie. À 6 ans, par exemple, un enfant dit « Son père connaît tout. » Il est sûr de ça. « Papa, il a la réponse à tout. » genre, papa a raison. À 10 ans, il commence à se questionner un peu en se disant, papa, c'est peut-être. À 15 ans, il se gonfle le torse, puis il dit, j'en sais autant que toi, papa. À 20 ans, rapidement, il dit, j'ai pas le temps de t'écouter, papa. À 30 ans, il commence à réfléchir un peu et se dit, ah, nous pourrions tout de même peut-être demander l'avis de papa. À 40 ans, avec sagesse, on finit par réfléchir et se dit, papa, c'est quand même quelque chose. À 50 ans, un enfant peut penser, papa, c'est tout. Et à 60 ans, un enfant peut penser, ah, si nous pouvions encore le demander à papa. Et dans ce temps-là, on réfléchit devant une situation. Qu'est-ce que papa aurait dit? Hein? C'est drôle comme ça évolue à travers les années. Alors, qu'est-ce que c'est un père aujourd'hui donc? C'est généralement reconnu qu'un père fait certaines choses, ou on attend d'un père qu'il fasse certaines choses. Par exemple, qu'il pourvoie aux besoins de la famille. Un père pourvoyeur. Quand on dit quelles sont les choses les plus importantes qu'un père peut faire, le numéro un au Canada, selon un sondage qui a été fait en 2021, c'est pourvoir aux besoins. Mais sur cinq qualités ou cinq verbes ou cinq choses qu'un père devrait faire dans sa famille, au Québec, le père pourvoyeur, c'était le cinquième. Pense qu'on est une société distincte. C'est un peu ça comme ça qu'on devrait voir ça. Parce que pour les Québécois, la chose la plus importante, ce n'était pas de pourvoir. La chose la plus importante au Québec, c'est d'être un modèle. On veut qu'un père soit un modèle. Et au niveau du reste du Canada, c'est quatrième. Pas si important que ça. Ah, la conception. Je te dis, c'est pas juste dans un même pays. Il y a des conceptions complètement différentes. Et là, on n'a pas parlé encore des sous-cultures. Hein? Un père, ça pourvoit. Ça fait ça, entre autres, mais pas que ça. Un père, ça protège. Un père, ça dirige. Un père, ça enseigne. Ça doit enseigner toutes sortes de choses, un père. Ça doit enseigner comment tenir un marteau sans se frapper le pouce. Un père, ça doit apprendre comment on réagit quand on se frappe le pouce avec un marteau. Très important aussi, comment on ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on se frappe avec un marteau? Comment devrait-on tenir un tournevis sans se percer la main? Ou utiliser une aiguine? Une aiguine? Wow, une scie à batterie? Une aiguine? Oui, dans l'ancien temps, on utilisait une aiguine pour scier des planches. Comment utilise-t-on ça sans s'érafler les doigts? Comment peut-on allumer un feu sans mettre le feu à la forêt? Comment peut-on pêcher sans se noyer? Chasser sans se blesser? Comment apprendre à jouer ou quelles sont les règles au hockey, au baseball, au soccer, au volleyball, au basketball? À la pétanque? Un père doit apprendre pas juste des choses comme ça, il doit apprendre apprendre à un enfant comment épargner en évitant les excès. Comment investir? Comment parler aux gens? Comment ne pas parler aux gens? Comment se comporter au volant? Comment un père peut-il transmettre ses valeurs, ses connaissances, sa foi à ses enfants? La meilleure façon, c'est à travers les interactions routinières dans la vie de tous les jours. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, nous lisons ce passage de l'Ancien Testament qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Alors tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, qu'ils restent gravés dans ton cœur. » Alors autrement dit, vis quelque chose d'intense, de vrai, de puissant avec Dieu. Et après ça, au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras chez toi, dans ta maison. » Quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au-delà des des informations formelles qui peuvent être communiquées d'un parent à un enfant. L'éducation la plus efficace, c'est celle qui est perçue, reçue, absorbée à travers la vie de tous les jours, en voyant. Et même si les enfants vont jurer qu'ils ne seront jamais comme leurs parents, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de parenté entre la façon d'agir et de réagir qu'on voit entre les parents et les enfants. Et Dieu, dans ce passage-là, dit, c'est exactement ça. Tu vas inculquer ces valeurs-là, ces principes-là, cette foi-là, cette confiance-là en Dieu à travers la vie de tous les jours. Quand tu t'en parleras, quand tu seras dans ta maison. C'est correct d'en parler à l'Église, c'est correct de louer Dieu à l'Église. Mais c'est bon de vivre notre foi chrétienne à la maison, dans notre vie de tous les jours. Chez toi, dans la maison. Quand tu marcheras sur la route. Aujourd'hui, c'est quand tu rouleras sur la route. Peut-être que dans quelques années, c'est quand tu voleras sur la route. Mais quoi qu'il en soit, quand tu es en déplacement, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Jusqu'à quel point qu'on respecte les arrêts. Jusqu'à quel point qu'on respecte la couleur de la lumière sur la route. On ne fait pas juste regarder frénétiquement dans le rétroviseur ou des deux côtés s'il y a des policiers alentour. Non! Il y a des choses qu'on apprend à nos enfants à travers tout cela. Tu en parleras quand tu te coucheras. À travers la routine du dodo. Quand c'est le temps de mettre les enfants au lit, et quand c'est le temps qu'ils ont 300 000 questions là, qu'ils ont à ce moment-là, l'objectif clair, c'est de repousser de plus loin possible l'heure de dormir. Mais l'enfant prétend vouloir apprendre toutes sortes de choses. Mais des fois, c'est peut-être au moment du coucher qu'on peut avoir des bonnes conversations aussi. Quand tu te coucheras, et puis quand tu te lèveras aussi. En vérité, c'est qu'à travers l'éducation qui est passée par notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de connaissances qui se transmettent de cette façon-là. Et c'est important pour un parent d'être attentif à son enfant. Un grand prédicateur américain du Texas, San Antonio aussi, ma mémoire est fidèle, qui s'appelle Max Lucado, et qui dit « Chaque enfant est né avec un mélange unique de forces et de caractéristiques. » Bien, ça, ce n'est pas une grande vérité, là. Tout le monde sait ça. Les enfants sont tous différents. Dans la même famille, les enfants sont tous différents. Des jumeaux sont différents. Max Lucado dit, « Ne voyez pas votre enfant comme une page blanche qui attend votre plume pour être écrite. Voyez-le plutôt comme un livre écrit qui attend que vous l'étudiez. » Ça, c'est bon. Autrement dit, un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui devrait réaliser tous les rêves de ce que j'aurais voulu faire puis que je n'ai pas réussi à faire. Lui, il va le faire à travers moi. J'ai toujours rêvé de jouer dans une finale de la Coupe Stanley. Je n'ai pas réussi parce qu'il n'y avait pas les bons recherchistes pour les équipes. Là, puis, ils ne m'ont pas trouvé. Puis, c'est ça, je n'ai pas été capable de faire le junior, majeur et tout ça. Hein? Oui, c'est ça. Bon. Mais mon fils, par exemple, ou ma fille va être capable de l'accomplir. Est-ce que les filles, un jour, vont jouer dans les finales de la Coupe Stanley? Il faudrait peut-être que la brutalité diminue un petit peu, peut-être en cours de route. En tout cas, bref, on verra ça à travers les années. Mais ce que Max Lucado dit, c'est intéressant ici. Un enfant, ce n'est pas une personne qui est là pour réaliser les rêves de ses parents ou les ambitions de ses parents ou les choses qu'on n'a pas réussi à accomplir. C'est sûr qu'on veut toujours laisser mieux pour nos enfants, qu'ils puissent avoir une meilleure vie que nous, on a pu l'avoir, dans des meilleures conditions. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas de réaliser nos rêves dans la vie de l'enfant, mais c'est de plutôt essayer de découvrir qui est-il véritablement. Un livre qui est déjà tout écrit et qui attend qu'on l'étudie. La Bible nous dit que dans les psaumes, pardonnez-moi, à quelque part, que dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui nous sont destinés, Dieu nous a fait uniques, différents. Quand on était même dans le sein de notre mère, une masse informée vite déjà, Dieu nous connaissait, comme on a chanté ce matin. Bien avant que je sois formé, bien avant que je naisse, déjà, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, où tu pourrais m'aimer aussi. Dieu nous connaît, mais avant même notre naissance. Alors, il a des plans pour nous. Il veut réaliser des choses dans notre vie. Et pour ça, il faut juste découvrir qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour cette personne-là. Quelles sont ses forces. Donc, quatre questions à se poser, à considérer quand on regarde nos enfants devant nous. Un, qu'est-ce que c'est sa force? Dans quoi qu'il est bon? Il ne peut pas être bon dans tout. Mais dans quoi est-il bon? Est-ce que c'est dans la musique? Est-ce que c'est dans le dessin? Est-ce que c'est dans les jeux de société? Est-ce que c'est dans les sports? Est-ce que c'est dans la communication? Est-ce que c'est dans la capacité de retenir ce qu'il lit? Qu'est-ce que c'est qui est sa force? Première chose importante. Deuxième chose, qu'est-ce qui l'intéresse? Parce que ce n'est pas parce qu'il est fort là-dedans que ça veut dire que ça l'intéresse nécessairement. Ça, j'ai compris ça. Non, c'est vrai. Je connais une petite fille qui avait des talents extraordinaires pour la musique, puis était bonne dans la flûte, mais ça ne l'intéressait pas. Ben, elle ne joue pas de flûte. Elle aurait été bonne, mais ça ne l'intéressait pas. John Hoskin, le célèbre écrivain britannique du 19e siècle, disait « Dites-moi ce que vous aimez et je vous dirai qui vous êtes. » Ce que vous êtes vraiment profondément à l'intérieur. Alors, les questions à se poser concernant l'enfant, qu'est-ce que c'est sa force? Deuxièmement, qu'est-ce qui l'intéresse? Troisièmement, quel est son environnement optimal? Dans quel environnement ça pousse mieux? Les pins dans les forêts ont besoin d'un type de sol qui est différent de celui des chênes. Un cactus s'épanouit dans un environnement différent de celui d'un rosier. Dans quel sol, dans quel environnement votre enfant s'épanouit-il? Certains enfants aiment se faire voir. Regarde-moi, papa! Hein? Papa ou maman sont en train d'avoir des conversations très sérieuses avec plein d'adultes très sérieux aussi, mais regarde-moi, papa! Hein, oui, c'est ça, pour voir encore la même tentative de pirouette. Ou peu importe. Regarde-moi. Certains enfants sont comme ça, s'épanouissent là-dedans. Certains autres enfants, ils préfèrent se perdre dans la foule. Certains enfants s'excitent devant un défi, un échéancier. Il faut réaliser cela. On part tout de suite à la course et on se tente de le réaliser. Mais d'autres, avec précaution, ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer, de planifier, organiser ça comme il faut. Certains enfants ont besoin d'aide. Chacun de nous a un environnement optimal qui est différent de celui de son voisin. Qu'est-ce que c'est l'environnement dans lequel votre enfant s'épanouit-il le plus? C'est important de réaliser ça. Quatrièmement, comment se positionne-t-il dans ses relations? Quelle phrase décrirait le mieux votre enfant? Suivez-moi tout le monde! Il y en a des comme ça, hein? Ça, c'est un petit leader. Ça, c'est un petit D dans le disque, là, c'est ça? Hein? Ça va être un fonceur, quelqu'un qui va vouloir réaliser des choses. Un autre enfant va dire, je te le dirai si j'en ai besoin, si j'ai besoin d'aide. Ça, c'est monsieur, madame, indépendant, là. Pourrait-on faire cela ensemble, se dirait peut-être un autre. Voilà la nécessité, le besoin qu'il y a d'être en relation avec d'autres et être capable de joindre les forces ensemble. Voyez-vous, il n'y a pas de bon et de pas bon là-dedans. Il y a juste des personnes différentes, créées par Dieu, à l'image de Dieu. Que Dieu souhaite qu'ils puissent s'épanouir, se réaliser, se développer pleinement selon sa volonté. Le solitaire n'est pas forcément distant, sauvage, comme on disait autrefois. Celui qui recherche la foule ne manque pas toujours de concentration. Il est stimulé, lui, par le bruit puis la foule. Ça va être ça, sa vie, peut-être. Dans quel environnement votre enfant s'épanouit-il? Qu'est-ce qui lui apporte de la satisfaction? Est-ce qu'il préfère le voyage ou il préfère l'arrivée à destination? Ça demande des personnalités différentes. Ce qui excite l'un pourrait bien ennuyer un autre. Prenez le temps de bien étudier votre enfant pendant que vous le pouvez. Le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, ce n'est pas la richesse de vos possessions que vous allez lui léguer, mais plutôt de lui révéler ses richesses, ses forces, ses aptitudes, ses capacités. L'aider à saisir et à réaliser ce qu'il aime véritablement. Qu'est-ce qu'on peut accomplir dans la vie en aimant ce genre de choses-là? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Paul parle aux Thessaloniciens et dit: « Vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à votre égard, à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. » Paul dit aux Thessaloniciens: « Si vous le savez, quand on était parmi vous, qu'on parlait, qu'on enseignait, qu'on vous dirigeait, on a essayé de le faire le mieux possible comme un père le fait pour ses enfants. » Et voici au verset 12, qu'est-ce qu'un père ça fait pour ses enfants? « Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On a voulu vous enseigner comme un père le fait pour ses enfants. » D'abord en transmettant des recommandations. Des recommandations. Ah, des fois, on voudrait que ce soit des ordres. Des fois, on voudrait que ce soit des style papa a raison avec pas une recommandation. Une information, c'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça que tu vas le faire, puis c'est comme ça que tu es mieux de le faire. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations. Nous n'avons cessé de vous encourager. Un père, ça ne fait pas juste crier après ses enfants. Ça encourage ses enfants. Pas sûr que j'ai été le plus grand encourageur devant l'Éternel. En fait, je suis sûr que je n'ai pas été le plus grand encourageur devant l'Éternel que la terre a porté. Il n'y a pas de père parfait. Peut-être que vous avez manqué d'encouragement, vous autres aussi. Est-ce que vous avez eu l'encouragement de vos parents? Je ne me rappelle pas d'avoir eu des grandes conversations avec mes parents, ma mère ou mon père, où est-ce qu'on parlait, qui m'encourageaient à faire quelque chose. Peut-être que ça a dû arriver, j'imagine. Ils ne sont plus là pour que je leur demande. Mais je me rappelle quand même qu'à un jeune âge, quand j'étais en secondaire 3, mon père me confiait les clés de son magasin et de sa caisse enregistreuse, et me laissait être le commis qui répondait à tous les gens qui avaient des informations à avoir dans la quincaillerie. Ça m'a aidé à me débrouiller et à faire la différence entre les vis et les clous, entre les aiguines et les perceuses, entre la peinture à l'huile ou au latex, entre les primers et les choses de finition. Ça m'a appris toutes sortes de choses dans mon adolescence. Mais ça m'a appris aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait confiance en moi. Quand je regarde un jeune de secondaire 3 aujourd'hui, je me dis, est-ce que je laisserai les clés de mon magasin entre ses mains? Mais vous savez, dans ces années-là, les jeunes de secondaire 3 étaient tellement plus matures, équilibrés, développés et connaissants. Non. Non, tout était imparfait dans cette époque-là aussi. Encouragez. Vous encouragez. Vous incitez à vivre. Vous incitez. Dans une autre traduction, ça nous dit vous conjurez ou vous suppliez dans une autre traduction. Vous avertir dans une autre encore. Une des choses les plus importantes que le Père fait, c'est justement parler, investir, supplier, inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est la clé. C'est ça le but. Dans l'auto, à la maison, au coucher, au lever, dans les conversations, dans les non-dits, par l'attitude qu'on a en toute chose, inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Voilà, c'est ça le but. Vivre d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Ça, c'est réussir par la grâce de Dieu à transmettre la perspective de l'éternité dans le cœur de l'enfant. Que tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, ce n'est pas juste de réaliser ta belle grande profession que tu vas accomplir, pour laquelle tu étudies, que tu étudies encore et que tu continues encore à étudier, puis que tu arrives à un deuxième puis un troisième degré, tant mieux si on réussit très bien. Ça va t'aider à bien accomplir des choses dans ta vie. Surtout si c'est ça que tu aimes et c'est ce qui te passionne, tant mieux. Mais tout n'arrêtera pas à la fin de ta carrière sur la terre. Toute la carrière sur la terre ne sert qu'à nous préparer pour ce qui vient pour l'éternité. Je vous ai conjuré, je vous ai incité, supplié, averti à vivre d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. La véritable perspective, la perspective de l'éternité doit être semée, encouragée, vissée, rentrée à coups de marteau dans le cœur de l'enfant pour qu'il saisisse l'importance de l'éternité. Est-ce que je pourrais inviter les musiciens à revenir ce matin? C'est tout un défi, l'éducation d'un enfant. Il n'y en a pas un qui est pareil. Tous sont différents, tous doivent être pris d'une façon différente. Et puis les parents ne sont pas parents à temps plein, les parents sont aussi occupés avec leur carrière, avec leur vie, avec leurs préoccupations, avec leurs autres responsabilités autour, et c'est correct, c'est bien comme ça. Mais c'est un défi de prendre le temps d'étudier comme il faut chaque enfant, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, mais il faut au moins y penser. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Un père parfait, ça n'existe pas, ça a été suffisamment souligné aujourd'hui, sauf Dieu, bien sûr. Dieu est notre souverain modèle de père. Dieu est un père qui n'est pas comme les autres. Un Père éternel, celui qui traverse les époques. Un Père éternel, un Père pour toute la surface de la terre, à travers toutes les cultures, à travers toutes les époques, à travers toutes les générations, il est le même Père. Il est toujours le même, celui qui est éternel. Et ce Père éternel-là, il est dans les cieux. Nous, notre Père sur la terre, il n'est pas éternel. Et il n'est pas parfait. Il vit sur la terre, pas dans le ciel. Il n'est pas parfait, il est bien humain. Et ça peut malheureusement avoir laissé des traces aussi. Je ne sais pas quelle a été votre relation avec votre Père terrestre. Mais Dieu est un Père qui est bon et parfait. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il nous aime. Et dans son amour, il veut qu'on choisisse le mieux pour nous. Il nous a dit ce qui était le mieux pour nous. Il voit notre résistance, il voit notre rébellion, il voit notre désir d'indépendance, de faire les choses à notre tête, jusqu'à ce qu'on se plante et qu'on se tourne vers lui en pleurs, et qu'on dise, « Père, comment tu peux me sortir de cette situation-là? » Et avec amour, patience, avec compassion, tendresse, il va nous donner des recommandations. Il va nous dire comment s'en sortir. Il nous aime. Il aime tout ce qui nous concerne. À tel point qu'il est capable de remarquer même lorsqu'un seul des cheveux de notre tête tombe. Il nous accepte tel que nous sommes, tel que vous êtes. Il vous aime assez pour vous guider, pour former son caractère en vous. Il se préoccupe de vous vraiment. Aujourd'hui et jusque dans l'éternité, Dieu sera votre Père. Il ne vous oubliera jamais. Il ne vous abandonnera pas. Il sera prêt à faire et il a fait des recommandations dans votre cœur, dans votre esprit. Il vous laisse des pensées Il vous laisse les Écritures qui nous fournissent tout plein d'informations sur ce que Dieu attend de nous. Il a un but dans la tête, quelque chose qu'il veut réaliser dans notre vie. Il nous a fait avec nos particularités, avec nos limites et avec nos forces pour accomplir quelque chose de spécifique. Et tout au long de la route, notre Père éternel sera là pour nous encourager, pour nous murmurer. Lâche pas, vas-y, continue. On peut le remercier aujourd'hui parce qu'il est notre Père éternel. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Seigneur éternel, nous voulons te dire merci aujourd'hui de nous aimer et d'être toujours à nos côtés avec nous. Aide-nous chaque jour un peu plus à comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour, afin de mieux te connaître. Permets-nous de devenir un canal pour ton amour et pour que ceux qui nous entourent puissent voir ta bonté et puissent te connaître aussi comme leur Père. Seigneur, aide-nous à être des dignes représentants de notre Père céleste. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.